Bonsoir, bienvenue à ce nouveau Pop en stock, le Pop en stock 119 au sujet du prix Nobel de Bob Dylan, le prix Nobel de littérature. Donc Bob Dylan, là, peut-être un mois, a gagné un prix Nobel en littérature, ça lui a pris 3 semaines avant de dire « OK, chill ». Et durant ces 3 semaines-là, les commentateurs, divers commentateurs se sont vraiment déchirés la chemise pour dire que oui, c'est complètement mérité, non, c'est pas mérité, c'est quoi la littérature maintenant, quoi est la littérature, quand est la littérature, où est la littérature, et plein de questions comme ça, finalement des questions de valeur sociale. Et autour de la table, on a trouvé qu'il y avait quand même une espèce de backlash de culture populaire à travers ces commentaires-là. Et on a trouvé à Pop en stock que finalement, c'était un super bon moyen de vider la question. Donc, on va parler de la valeur de la culture populaire, de la place de la culture populaire par rapport particulièrement à des formes d'art plus institutionnalisées, si on peut dire, à travers justement les discours qu'on peut avoir du prix Nobel de littérature de Bob Dylan. Donc, je m'appelle Hélène Lorrain et autour de la table, on a Stéphane Plante.
Bonjour.
Producteur de contenu web au journaldemontréal.com, un de mes collègues. Simon Laperrière.
Bonjour.
Doctorant en études cinématographiques et aussi extrême fan de Dylan.
Qui est venu moi, j'ai dansé.
J'ai dansé.
Et Stéphanie Roussel.
Hello.
Étudiante à la maîtrise en littérature à l'UQAM, voilà, et qui a beaucoup de réflexions par rapport à la littérature en général. Donc, qu'est-ce qui est arrivé le plus souvent, j'ai l'impression, dans les textes qui ont été écrits par rapport au Nobel de littérature de Bob Dylan, c'est que Dylan ne méritait pas ça parce que c'est pas un écrivain, c'est pas un auteur. Et c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé quand même lors de l'émission sur Dylan, parce qu'il y a vraiment il y a 60 ans de carrière. Et donc, je pense que j'ouvre la question là-dessus. Qu'est-ce que la littérature? On peut aller plus soft. Qu'est-ce qu'une chanson?
Qu'est-ce qu'une chanson?
Ben, je pense d'abord, ce qui est assez curieux par rapport aux réactions négatives envers le prix de Dylan, c'est que... C'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau. Ça fait des années que Bob Dylan était pressenti pour le prix Nobel de littérature.
Les rumeurs disent 1996.
Ce qui m'apparaît juste. Et tant et aussi longtemps qu'il n'avait pas eu sa récompense, c'était jamais remis en cause. Son nom apparaissait dans les listes et même que la plupart des gens s'entendaient pour dire qu'il méritait la récompense et qu'elle se faisait attendre. Il la reçoit et là, boum, les gens...
Réaction.
Hurle au scandale.
Ça, je me demande vraiment pourquoi cette réaction-là, alors qu'auparavant, c'était pas du tout un sujet de polémique.
Il y a la question, effectivement, de la chanson comme étant moins... avec moins de valeur. C'est sûr que je pense qu'il y a une question aussi de... comment dire, d'héritage de la chanson, que c'est un art oral, donc c'est toute l'oralité versus l'écrit. Le type de chanson que Bob Dylan fait aussi, qui est relié à la tradition folk, c'était pas des chansons écrites, c'est pas des chansons qui sont notifiées selon la notation, les partitions musicales, tout ça. Donc, il y a quelque chose là. Oui, Stéphanie?
Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans toutes les théories, justement, sur la poésie orale, en voix, oralisée, vocalisée, peu importe, la chanson fait toujours, de facto, partie des théories sur la poésie, sur la littérature. Tu sais, c'est des théoriciens qui s'intéressent à la littérature, mais ils incluent la chanson sans se poser de questions. C'est de la poésie en voix... Je ne vais pas dire tout le temps les mêmes adjectifs, mais je relisais pour les besoins de l'émission un article d'Éviston qui s'appelle « La fin des hégémonies, il débute quelque chose ». Puis il parle de la fin de la littérature, pas comme puis personne lit des textes, il n'y a plus d'écrivains, il n'y a plus de grands auteurs, mais qu'est-ce que le mot même, littérature, quand est-ce qu'il est apparu, puis qu'est-ce qui s'est mis à signifier? Puis par rapport au prix Nobel, je trouve que c'est un peu fou parce que je pense que c'est ça qui choque, c'est que le prix Nobel, comme institution, représente la littérature comme elle s'est développée à ses origines, c'est-à-dire comme un dispositif qui s'est constitué dans les identités nationales, avec une automatisation des discours axés sur le savoir. Donc, la littérature devrait nous apprendre des choses, devrait être grande et profonde, avec des figures qui sont apparues comme Balzac, Zola. Donc, lui, place... Tu sais, puis dans son article, il dit qu'en fait, on devrait peut-être inventer un nouveau mot pour décrire qu'est-ce qui se passe, comme de garder la littérature pour les années 1800 à 2000, donc 1800 quand que cette acception-là de la littérature, quand la littérature a pris ce sens-là particulier, donc plus juste écriture, là.
Mais dans les réactions, ce qui me ferait comme justement la fin de la littérature, il y avait beaucoup de commentaires apocalyptiques. Parce qu'on remet un prix à un chanteur populaire, chanteur folk, donc c'est la fin. Ben, Alain Finkielkraut disait, c'est la fin de l'Europe des cultures. Il annonce la fin d'une ère. C'est fou quand même, parce qu'il disait, si on remet un prix de ce prestige-là à quelqu'un qui joue de la guitare, qui chante... Et lui aussi, je pense qu'il a pris soin de dire en commençant sa thèse, disant « Méprenez-vous pas, je suis un fan de Dylan, mais je trouve juste qu'il mérite pas ce prix-là. » Et lui, il parlait d'une fin de l'Europe des cultures. C'est quand même un peu... Moi, je trouve que c'est un peu une enflure. Là. J'ai pas tant une opinion arrêtée sur le fait qu'il mérite ou pas. Je trouve juste qu'il y a eu un débordement chez ses détracteurs.
Mais c'est ça qui, justement, quand il la met, en fait, aux années 2000, mais même avant, avec les théories des années 1970, comme quoi la littérature... elle a fini par être ce discours-là élitiste qui se séparait de la lecture des masses, la lecture populaire. Puis c'est, tu sais, de donner le prix à Bob Dylan, c'est vraiment de remettre en question qu'est-ce qui va être littéraire à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on veut comme influence des auteurs? Est-ce qu'on pourrait donner l'année prochaine le prix à J.K. Rowling pour son influence sur la lecture chez les enfants? Est-ce que mondialement, elle a fait lire plus de livres? Ouais. Donc, est-ce que cette influence-là est assez... est assez importante pour qu'elle puisse recevoir un prix Nobel de littérature ou l'importance doit se situer ailleurs que dans les impacts sociaux?
Oui, ça, mais il y avait... Parmi les commentateurs, il y avait justement la question du goût populaire. Donc, en fait, vraiment, la popularité au sens purement quantitatif du terme. Donc, si tu as vendu, dans le cas de Bob Dylan, probablement des centaines de millions d'albums, je connais pas ces chiffres, mais c'est au-delà de dizaines, me semble, de millions d'albums durant sa carrière... Et J.K. Rowling, justement, qui a vendu je ne sais pas combien, plus de millions d'exemplaires de la suite Harry Potter et autres. Est-ce que c'est pas comme l'institution des prix Nobel qui veut se racheter pour avoir fait preuve de snobisme pendant plein d'années, d'avoir donné des prix à des Islandaises de 92 ans, là, probablement. Je pense pas qu'il y en a des masses. Il y avait ce genre de critique voilée là aussi que le public ne peut pas avoir raison à quelque part.
Ce qui donne raison au public, de moins dans l'histoire littéraire, c'est quelque chose comme Umberto Eco avait fait remarquer, c'est que le panthéon des classiques de la littérature contient principalement des best-sellers. Balzac, c'était de son vivant, c'était des best-sellers. Si Don Quixote s'est rendu jusqu'à nous, c'est parce que c'était un roman qui était lu par énormément de gens lors de la publication du vivant de l'auteur et par la suite. Donc, et pour un roman de Flaubert, combien d'auteurs sont sombrés dans l'oubli? Pas parce que c'était des mauvais romans, mais parce qu'ils n'ont jamais été capables de trouver leur lectorat. Donc, selon moi, ça fait un peu sens que que certains Nobel vont être remis à des auteurs qui ont un public très, 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 très large. Mm-hmm. Je pense pas que c'est une preuve de... En fait, ça m'apparaît même pas comme une preuve, ne serait-ce d'ouverture. T'sais, on pense à Houellebecq et le Goncourt, qui était un autre sujet de controverse. Je pense pas que Houellebecq l'a reçu pour le nombre de romans vendus. Je pense même que ça jouait contre lui dans la décision du jury.
Ah oui, carrément, oui.
Mais je serais porté à croire, en tout cas.
Mais tu sais, je crois que c'est vraiment un statement qui font comme une redéfinition, comment que l'Académie suédoise présentement se redéfinit. Si on pense au fait que c'est Alice Munro, si je me trompe pas.
Le 3 ans, oui.
Le 3 ans qu'il gagne, mais c'est une des premières novellistes à pouvoir avoir un prix Nobel. Puis là, on le donne à Bob Dylan. Alors
c'est
que
pas le premier chanteur, par exemple. J'ai fait des petites recherches.
Ouais.
Il y a un artiste, un écrivain indien qui a déjà écrit.
Tagore.
Mais c'est la première fois, par contre, qu'on parle de son œuvre musicale. Parce que dans la déclaration sur Tagore,
il y avait plein de romans,
mais c'est
de
comme
théâtre.
C'est à côté. Ben, c'est pas à côté. Ça fait sa performance dans sa carrière, mais dans la déclaration du prix Nobel, c'est à côté. T'sais, ça servait pas. C'est pas pour cette raison-là qu'ils lui ont donné. Mais moi, c'est plus comme. Il y a le secrétaire permanent de l'Académie suédoise en 2008, ils ont changé d'ailleurs depuis. Horace Engdahl, qui déclare que les écrivains américains participent pas à un discours, à un dialogue avec la littérature. Puis là.
Ça, c'est un drôle de commentaire, sincèrement.
Le premier Nobel qu'on donne depuis cette déclaration-là, on le donne à Bob Dylan. Qui est un chanteur populaire. Donc, c'est vraiment un... On va se rattraper, mais on vient de changer de posture par rapport à 2008. La nouvelle Académie a une nouvelle définition de la littérature, clairement.
Oui, oui, oui.
Et c'est pas non plus en fait, on dirait que l'Académie, pour le prix littéraire, fait vraiment preuve d'audace. Il y a 2 ans, quand c'est Patrick Modiano qui l'avait remporté, tout le monde était surpris. Les commentaires sur la remise de ce prix-là, c'était... On ne comprend pas.
Pourquoi, peux-tu me rappeler
Parce que c'est un auteur qui est pas lu tant que ça. C'est un auteur qu'on dirait qu'il s'est jamais vraiment démarqué par rapport à d'autres. Il y a aussi le fait que c'est un auteur français et par rapport à tous les autres qui auraient pu remporter ce prix, la liste est très, 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 très longue. Mais je pense que ça n'a pas eu la même polémique que Bob Dylan, évidemment, parce que Modiano est moins connu, justement. Mais c'est un prix qui en avait surpris plus d'un. Et peut-être que l'Académie, c'est la destination que présentement ils veulent prendre. Ils veulent nous surprendre avec des prix qui, justement, viennent redéfinir peut-être pas le statut de la littérature, mais le statut du prix lui-même.
Mm-hmm.
À savoir, c'est pas forcément Michel Houellebecq qui va gagner ça, ça va être Patrick Modiano. Et en 2016, ce sera pas forcément un romancier. Parce que
un Philip Roth, parce que Philip Roth,
tout le monde évoquait Philip Roth. Pourquoi pas lui?
Et je pense, pour ramener à la question de qu'est-ce que le littéraire, c'est que qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que le littéraire, qui est pas la même chose, mm-hmm. c'est que je pense que ce qui dérange les gens, c'est que Bob Dylan, c'est pas un romancier.
Oui, oui. Puis ben, la littérature s'est développée par l'idée des romanciers pour qu'on en arrive à notre définition actuelle, puis aussi par un oubli du corps. Là. Plus le roman a avancé, plus la lecture orale s'est mise à être dénigrée. Je veux dire, Balzac, dans ses romans, s'il y a quelqu'un qui lit son texte, c'est honteux, il va toujours le tourner en dérision. Donc, toute la littérature orale qui se base sur la communauté, sur le corps, sur l'échange, mais devient genre de plus en plus dénigrée par rapport à une littérature qui serait silencieuse, qu'on aurait une façon, on est assis, on est dans une bibliothèque, on réfléchit, on travaille sur le texte, ça devient une production. Il y a l'idée de la production.
Une production intellectuelle. Oui.
Il y a l'idée de l'individualisme, de.
Ça, c'est vrai, puis on le voit beaucoup en musique populaire. Là. C'est quelque chose que j'ai étudié, c'est la légitimation de la musique populaire. Puis justement, le fait que ça soit aussi comme un art, même pour certains, c'est pas du tout un art, c'est de l'entertainment, qui soit si comme sensuel, incarné dans le corps, qu'on est vraiment dans une logique marchande également. Faut quand même faire de l'argent avec les disques, parce que ça coûte quelque chose les produire. Justement, qui est pas noté, c'est tout le temps quelque chose. Un chanteur comme Beck ne sait pas lire la musique.
Bob Dylan ne sait pas chanter. Donc.
Oui, ça, c'est bien vrai. Désolée.
Mais c'est
la racine, une des racines, en tout cas, pour laquelle la musique populaire est à ce jour pas encore tout à fait au panthéon des bons arts.
Un art mineur, comme Gainsbourg disait. Ben, on peut voir une entrevue un débat, en fait, entre Gainsbourg et Guy Béat, un autre chanteur, sur l'importance de définir art majeur et art mineur. Et pour Gainsbourg, ce qu'il fait, lui, c'est de l'art mineur.
Oui, parce qu'il voulait être peintre. Elle.
Oui, oui, absolument. Puis il a appris la musique classique. Lui,
ses
savait
parents.
Lire la musique.
Oui, ses parents exactement. Sont des grands musiciens.
Son père était un pianiste de concert. Il a fait un peu de musique populaire pour gagner sa vie. Mais pour Gainsbourg, l'art majeur, ça prenait quelqu'un qui t'initie, qui te montre les bases, alors que...
Ah, un compagnonnage.
C'est ça. Tandis que l'art mineur, ça joue à la radio, c'est des choses qui sont à la portée de tout le monde. Il y avait une distinction et il pogne les nerfs après Guy Béard assez sérieusement. Ça pète un peu sa brosse, mais c'est Gainsbourg.
Mais on sent, mais même à l'intérieur même du champ littéraire, si on lit sur les lectures publiques, par exemple... C'est toujours, on dit toujours un mini prix, comme si tu fais de la lecture publique, c'est pour accompagner ton œuvre écrite, parce que c'est juste l'œuvre écrite qui a de l'importance, puis tu fais de la publicité, c'est du marketing, ça peut pas exister. Puis il y a même des festivals de littérature que, pour pouvoir performer là-bas, il faut absolument que tu aies publié un livre. Alors qu'il y a des gens qui vont en littérature aussi, qui vont faire une carrière juste à l'oral, qui vont être dans plein de festivals plus indépendants parce qu'ils sont accueillis dans ces festivals-là, contrairement aux grands festivals officiels du Québec, là, où ça doit être la même chose partout dans le monde. Mais il y a quand même toute cette idée-là que si c'est à l'oral, même pas juste pour la musique, là, mais que la littérature orale n'existe pas ou devient vraiment...
Subordonnée
ou devient une façon commerciale de vendre. On espère que si les gens vont à des spectacles de littérature, ils vont après aller acheter un livre. Est-ce que ça va leur donner le goût de la lecture alors que ça devient jamais une œuvre en soi? Là, tu fais une performance, puis ça vaut jamais pour soi-même. Ça vaut toujours par rapport à la littérature écrite.
Et ça, c'est une posture qui ne tient pas compte du travail d'écriture derrière la littérature orale.
Mm-hmm.
Parce que dans le cas de Bob Dylan, je disais, c'est pas un romancier, d'abord, c'est pas vrai. Il a écrit un roman qui s'appelle Tarantula.
Il a écrit une autobiographie aussi, Chronicles.
Le volume 1, les deux autres On va espérer les voir prochainement. Peut-être que la bourse du Nobel va y donner du temps pour mettre une pause,
un never-ending tour
et pour écrire son livre, parce qu'il a besoin d'argent, Bob Dylan.
Ouais.
Mais les chansons que Dylan chante depuis des années sur scène, il les improvise pas. Il y a un vrai travail d'écriture qui a été fait avant la mise en... avant qu'il monte sur scène pour les chanter. Puis bon, Stéphanie, tu vas le savoir mieux que moi, mais quand tu fais une performance, il y a une part d'écriture qui va préparer.
Aujourd'hui, c'est rare les gens. Il y en a des gens qui font de l'improvisation qui sont très bons là-dedans, mais la plupart des performances, c'est des performances qui sont écrites, oui. que les gens pensent, par contre, pour la diffusion orale, pour l'oralité. Là.
Mais même là, il y a aussi un travail sur scène aussi, qui est peut-être pas de l'ordre de la littérature, mais il y a quand même un travail artistique qui se fait dans ce sens-là également. Mais je reprends la balle au bon par rapport à cette dévaluation, finalement, du travail oral. Puis ça me... Je trouve ça tellement triste. Genre, je suis tellement... À quel point ça peut décourager des gens de prendre un crayon puis d'écrire, puis de... d'avoir cette... Bien, pas justement d'écrire, mais d'aller sur scène puis de chanter, justement.
Parce que la littérature est...
Comme si il fallait avoir une espèce de... Justement, un maître qui
un
nous
maître,
enseigne.
C'est ça.
Yoda, là, qui nous dit, genre, ah, oui, tu devrais écrire comme ça et tout ça. Donc, alors que... Tu sais, je pense que n'importe qui peut apprendre à écrire, justement. En tout cas, bon, c'est mon opinion personnelle, mais au-delà de ça...
Ça fait un peu penser au mépris qu'on peut avoir envers l'autopublication.
Oui, c'est vrai.
De dire, si tu te publies toi-même, c'est qu'aucun éditeur voulait de ton travail, donc ça ne vaut rien. Et dans les faits, ben, tu sais, Marcel Proust, au départ, il s'est autopublié.
Ah
oui,
je savais pas.
Aux dernières nouvelles, la recherche du temps perdu, c'est à la Pléiade.
Mais je crois qu'il y a quand même une perspective historique sur le fait que la littérature, au départ, était orale, puis elle est devenue, avec le temps, silencieuse. Mais à travers l'histoire, les élites se sont emparées de la littérature silencieuse pour pouvoir l'étudier comme moment de savoir. Puis les personnes qui restaient à lire, à la vivre de façon orale, c'était les ouvriers, c'était les femmes, c'était les enfants.
Oui,
cette idée-là d'infantilisation des catégories sociales. La littérature, c'est devenu un marqueur social entre les gens qui sont capables de la maîtriser, qui sont capables de la lire, puis les gens
qui
sont...
D'y réfléchir.
Puis les gens qui sont soumis à devoir se faire partager par quelqu'un d'autre parce qu'ils ne comprennent pas réellement, ils ne sont pas capables d'avoir un accès direct au texte. Donc, je pense qu'il y a toute cette idée-là de, comme, historiquement, on a voulu tellement mettre de l'avant une littérature qui est soutenue par une élite. Puis là, une élite qui est l'Académie suédoise nous dit, peut-être que les choses peuvent changer.
Une élite instruite, une élite ne serait-ce qui sait lire. Mais c'est vrai par rapport au départ de la littérature qui était orale. Je veux dire, l'auteur qu'on a le plus cité pour défendre Bob Dylan, c'est Homère. D'abord, Homère, on ne sait même pas s'il existait.
Mais
le texte, l'Iliade, l'Odyssée, on le sait, c'était des chants. Puis par la suite, on peut remonter à...
Ouais, puis en plus, dans l'Antiquité, la voix c'était une valeur sociale justement reconnue. Là, souvent, c'était les esclaves qui étaient capables de décoder pour pouvoir lire à voix haute. Puis les gens, ils voulaient écouter. Là, le but, c'était ça qui était glorieux. Puis on l'utilise pour... comme contre-argument, comme quelqu'un qui fait la même chose. Ça peut...
Mais on pourrait, par contre, regretter qu'on a ensuite condamné, cantonné l'Iliade et l'Odyssée au texte. On ne fait pas de lecture orale de l'Odyssée. Je me souviens d'un de mes profs de littérature à l'Université de Montréal. Il nous disait, si vous voulez vraiment saisir toute l'ampleur du texte homérien, lisez-le à voix haute. Et ça fait toute une différence.
Mm-hmm.
Là, on sent tout l'aspect, la dimension épique du voyage d'Ulysse. C'est vraiment une expérience intéressante. Et je pense que c'est la même chose. On peut acheter en librairie là un recueil des chansons de Bob Dylan et on peut le lire comme on lirait un poème. Et bon, j'imagine qu'on va aborder la poésie prochainement dans notre conversation. Mais ça n'a pas du tout le même impact que si on écoute un enregistrement ou si on se plaît à chanter la chanson par nous-mêmes.
Oui. Puis là, justement, ça apporte... Parlons-en tout de suite. La poésie, je sais que, comme plusieurs d'entre nous, des anciens élèves, on a eu un module, à tout le moins, chanson durant le secondaire ou durant le cégep. Puis moi, je sais que, pour ma part, ça a été un ouvreur de conscience énorme, là, que j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des grands textes à travers des chansons, justement, à travers la musique populaire.
J'ai trouvé vraiment ça drôle pour deux raisons. Là. Mais il y a plein de monde qui citait Barthes pour dire la littérature, c'est ce qui est enseigné par l'institution, ce qui fait partie de l'institution 1. C'est comme si l'institution, c'était monolithique, puis ça pouvait jamais changer.
Non,
puis la littérature, donc, pouvait jamais changer. C'était l'institution du passé. Mais aussi, ça en fait déjà partie. J'étais comme, est-ce qu'ils ont vu récemment un plan de cours là, depuis le primaire? Là, on enseigne la poésie à travers la musique. Moi, tout mon parcours scolaire, j'ai vu des chansons, Léo Ferré.
Un autre auteur qui était ressenti pour le prix de littérature 2016, c'était un poète. J'oublie son nom, mais je suis persuadé que si lui, il avait remporté le prix, ça aurait pas fait autant de chichi que Bob Dylan.
Mais je pense que ça aurait fait du chichi plus... moins assumé, parce que il y a quand même un mépris pour la poésie qui se fait sentir en ce moment. Par exemple, Patrick Sénécal, dans Le Devoir, disait que c'était une honte pour les écrivains, puis synonyme, les romanciers, comme si...
On ne pouvait qu'écrire des romans.
Des romans. Puis il y a quand même ce discours-là qu'un roman, ça serait plus long, ça serait plus difficile, Tu sais, la poésie, ça fait plus une œuvre de jeunesse, c'est facile, tu peux écrire ça sur le coin d'une table, c'est court, il n'y a pas beaucoup de mots. Comme si la littérature se calculait en épaisseur de page.
Il devrait relire Dante. Je dis ça comme ça.
Mais là, je ne dis pas que lui, il a 10 la poésie, mais au complet, mais il a quand même écrit aux écrivains, aux romanciers.
Mais par rapport à la poésie, une des critiques qui a été formulée, c'est que ce que faisait Dylan, c'est une poésie chantée. Donc, c'est pas ce que la poésie moderne est devenue.
Mm-hmm.
La poésie qui n'a plus de structure, qui n'est plus versifiée, qui est plus rimée non plus. Puis Bob Dylan en a parlé de ça, que c'est effectivement, quand t'écris une chanson, c'est pas la même chose que quand t'écris de la poésie en vers libre ou complètement dans des formes plus éclatées. Et ça, ça a été reproché, comme quoi il faisait pas de la poésie moderne. Mais reste à savoir si un poète moderne avait eu la mention, peut-être qu'il y aurait aussi un tollé. Mais quoi qu'il aurait été sûrement moins connu que Bob Dylan.
Toute façon, c'est un jugement culturel. Là. Il y a des pays qui font encore des... Je veux dire, les règles de la poésie n'ont pas été les mêmes pour toutes les cultures.
Non, c'est ça, effectivement.
Donc nous, effectivement, on est plus, même s'il y a encore du monde qui peut faire des rimes ou peu importe, on est plus passé sur le côté du vers libre, mais cette poésie-là est quand même... Il y a quand même l'idée du rythme, là. Il n'y a pas de poète qui écrive sans penser au rythme, sans penser... Je veux dire, la versification sert ça aussi. Donc, c'est un peu... Oui, c'est vrai, ils ont dit comme... ces mots peuvent juste être avec la musique, comme si...
Puis il y avait aussi on a retracé des mots d'anciens critiques extrêmement influents, John Christgau puis Lynn Willis, qui ont dit, même en tant que poète rock, c'est un... C'est bizarre de dire poète rock, je me sens comme Lucien Francaire. C'est un très... C'est pas bon, parce que c'est reconnu comme un excellent parolier, mais comme poésie, c'est quelque chose qui se tient pas, puis on a de la misère. Quand on lit pas avec la musique derrière, c'est moyen, du Bob Dylan. C'est ça, je pense, dans le Vice ou dans le Pitchfork, qui disait même des grands critiques rock ont dit que Bob Dylan... a pas l'espèce d'ampleur littéraire
qui décide de ça?
Ben ouais,
c'est ça, mais on peut parler.
Je dirais, n'en demeure pas moins que c'est un des artistes les plus cités du 20e siècle. Donc, c'est peut-être pas un grand poème, mais il a eu un impact et une influence sur tellement d'autres artistes dans tous les domaines par la suite.
Puis il s'inscrit dans le coin de la Beat Generation, dans plein de...
Il y a une appartenance littéraire, mais il y a aussi, c'est ça, c'est comme des baby boomers qui se donnent des prix entre eux.
Ben ça, Irvin Welsh, c'est ce qu'il disait, c'était les jurés là, des prix Nobel, c'était des vieux hippies baragouinants à la prostate rance. Un truc comme ça, là, dans son commentaire sur Twitter. Il n'a pas développé tellement plus, là, mais je pense que...
Quand on regarde la composition des comités des Nobel ou comment ça fonctionne, c'est sûr qu'on dirait qu'il y a une espèce d'auto-congratulation puis une espèce de, encore une fois, de mise au piédestal là, de la culture des années 60 et donc la culture qui a formé beaucoup cette génération-là. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est exactement comme Simon disait, Bob Dylan a influencé tellement de champs artistiques depuis une soixantaine d'années que ça devient difficile, c'est vraiment ça, c'est vraiment un pilier. D'ailleurs, on peut parler un peu des prix Nobel. Je me suis un peu renseignée, puis comment ça fonctionne. C'est quand même un comité fermé qui décide, comme sur 3000 nominations, qui décide qui va gagner des prix. Ça me semble, mais quand on déconstruit des prix, ça semble vraiment prouver à quel point c'est un peu absurde. Ouais. Et comme on peut donner ça, il y aurait tellement de personnes méritantes que une seule personne gagne, ça devient un peu. C'est un peu absurde, finalement.
Mais c'est subjectif. Oui, c'est... j'ai vu récemment au cinéma des Hans Maiden, le nouveau film de Park Chan-wook, et selon moi, c'est un non-sens qu'il ne figurait pas au palmarès pour la Palme d'Or cette année. C'est un non-sens. Mais le jury, présidé par George Miller, cette année a décidé que non, Park Chan-wook ne méritait pas de prix. Probablement que si ça avait été quelqu'un d'autre dans le jury, il en aurait été autrement.
C'est sûr que tout le monde a des sensibilités différentes pour apprécier certains éléments au détriment d'autres.
Bien, c'est comme quand Michael Moore a remporté la palme à Cannes, tout le monde disait bien, c'est un geste politique, parce qu'il y avait Quentin Tarantino qui était sur le jury. Tout le monde a dit ça, c'est politique, on veut envoyer un message à Bush. C'est pas tant pour les qualités esthétiques du film comme le message politique qu'il renvoie.
Oui. Ce que Tarantino ensuite a démenti en disant ce n'est pas un prix politique, ouais. ce qui est très, très, très curieux, parce que s'il y a bien un film qui n'est pas cinématographique en termes d'esthétique, c'est bien le cinéma de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Et bon, ben ils ont le même producteur.
Ah, OK. On vient d'apprendre. Je savais pas ça.
Mais il y a plein de prix comme ça. Il y a plein de grandes distinctions sociales, les prix Nobel, les palmes d'or, les Oscars, les Grammys. Ça, c'est un peu américano-centriste. Mais dans le monde, les Nobel, c'est une des particularités, c'est que c'est pas seulement la littérature. Il y a des champs scientifiques qui sont félicités. Et à chaque fois, c'est l'œuvre de... En fait, pour le prix littéraire, c'est l'œuvre de vie. C'est important que ce soit le lifetime achievement.
Je pense que c'est pour ça aussi que le prix Nobel a une importance culturelle plus importante. Ben, comme que son importance, ça soit là-dessus. Parce que, un, ça... C'est pas un prix qui se désignait à une œuvre publiée dans l'année. Donc, s'il n'y a pas de bonne œuvre dans l'année, bon, on le donne quand même au plus méritant, si on veut. Mais
comme le Goncourt, par exemple.
Comme le Goncourt. Ouais, c'est ça, comme le Goncourt. T'sais, pour avoir une année où il y avait deux œuvres qui étaient vraiment fortes, mais là, on en privilégie une. Puis l'année d'après, ben, il y a. L'œuvre qui en a écopé était plus forte que celle qui va être méritante l'année suivante. Donc, ces prix-là, ils deviennent moins importants parce qu'ils sont moins des marqueurs.
C'est des prix d'actualité.
C'est des prix d'actualité, tandis que le prix Nobel, c'est vraiment un prix qui s'intéresse à une œuvre entière qu'on pourrait la donner l'année d'avant ou l'année d'après. C'est pas grave, c'est pas sur l'actualité du tout.
Et c'est pour ça que quand on y pense, c'est un peu un non-sens de se demander en quoi le Nobel à Dillon apportera un commentaire sur l'état de la littérature contemporaine quand on tient compte que la personne qui gagne le prix, c'est un artiste qui a 75 ans, qui fait de la musique depuis les années 60 et qu'on récompense son œuvre en entier, donc des années 60 jusqu'à maintenant. À la rigueur, ce serait une façon de dire il a apporté beaucoup, c'est ce que l'on reconnaît, et maintenant, tournons-nous vers l'avenir. Je pense plus que les Nobel, comme tu dis, Stéphanie, c'est des prix qui sont tournés vers le passé.
Oui, mais c'est la littérature à tout le moins.
Oui, mais après, ils vont quand même y aller vers une idée de qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir.
On fait un marqueur pour se demander. Oui.
Parce qu'il y a quand même un côté actuel. Quand Churchill gagne le prix Nobel de littérature... Oui. On s'entend que c'est pour ça a été vraiment influencé par l'actualité. Là.
Mais est-ce que c'était le cas pour William Faulkner? Est-ce que ça a été le cas pour Modiano, justement, qui sortait d'une boîte à surprises? Est-ce que vraiment, là, il y avait une prise de position de l'Académie par rapport à ce que la littérature pouvait faire?
Ben moi, je sais que quand, en tout cas, dans la description de Alice Munro, il souligne pour son importance pour la transformation de la nouvelle contemporaine, pour avoir changé la façon de faire des nouvelles. Donc, je pense que quand même l'idée de... Tu sais, quand on le donnait à Jean-Paul Sartre, c'était pour son questionnement aussi sur la littérature. Je pense qu'il y a toujours un rapport sur qu'est-ce que ça dit sur la littérature, qu'est-ce que ça va faire pour le futur, mais en regardant le passé, évidemment. Là, où qu'on en est maintenant?
En fait, ça nous fait peut-être un catalogue de références, un peu comme les Nobel, ce sera un peu comme les coups de cœur du patrimoine littéraire.
Avec un cœur, ouais, c'est ça.
Mettez-les dans votre bibliothèque. Vous aurez un bon apprentissage à faire. Mais je pense justement, c'est dans une optique aussi de canonisation des auteurs.
Complètement, c'est la canonisation comme de leur vivant en plus. Il faut qu'ils soient vivants, sinon ça fonctionne pas.
Sinon, le chèque va aller à qui, c'est ça?
Le chèque va aller à qui?
C'est ça, exactement.
Moi, j'avais une question que je me suis posée, c'est une des grandes valeurs du rock, c'est la rébellion. Donc, on est supposé brûler tout un peu sur le passage, puis stick it to the man, comme, comme c'est dit dans School of Rock, un grand film. est-ce que, comment la musique rock peut toujours être belle si le rock est nobilisé? C'est un des piliers, un des canons du rock est nobilisé.
Ben, tant qu'à moi, juste la commercialisation du rock, utiliser, mettons, du rock dans une pub pour vendre des produits, pour moi, c'est pire qu'un Nobel. Ben, je veux dire, c'est pire. Ça, pour la réputation rebelle du rock, ça joue plus qu'un Nobel pour moi.
Ou encore être, pas canonisé, mais rendu sir par les la monarchie britannique.
Ça va être un grand débat, ça aussi, par les Rolling Stones.
Mais en même temps, le débat qu'il y a autour de ça redonne, c'est assez rock, là. Genre de vouloir, tu sais, l'institution qui est vraiment pas contente d'avoir Bob Dylan parmi eux, là, parmi elles.
Oui, il y a clairement... Oui, c'est comme... On dirait que c'est comme la littérature qui est devenue rock.
C'est ça. Moi, c'est drôle, tu vas pas m'aimer, Hélène, mais je peux pas identifier Bob Dylan au rock'n'roll.
Oui, OK.
Absolument pas. C'est un chanteur folk qui ensuite a suivi son propre parcours. Il a été influencé par le rock. Il a influencé le rock. Je ne le considère pas comme un chanteur rock.
La manière dont je parle de rock, ça, c'est quelque chose que peut-être que j'aurais dû dire plus tôt. Je parle de culture rock. C'est la culture contemporaine de la musique populaire depuis 1955. D'accord. Même qu'on pourrait dire que la culture rock, en fait, est vraiment en train de baisser au profit de la culture rap depuis peut-être une dizaine d'années. Mais dans ce sens-là, Bob Dylan est un des fondateurs, un des piliers vraiment de la culture rock parce qu'il a beaucoup parlé. Justement, c'est lui qui a insufflé tout le courant artistique. Il a énormément d'importance. Aussi, l'authenticité, ça, c'était avec Mick Jagger et compagnie. Puis le fait d'écrire ses propres chansons, d'interpréter ses propres chansons, parce qu'au début, les Rolling Stones et les Beatles, ils empruntaient un peu à gauche et à droite. Donc, il y a vraiment énormément d'importance pour ces valeurs-là. Pour la formation culturelle qu'est le rock. Voilà.
En fait, si on parle de... Tu parles d'emploi, mais si on parle de véhiculer la littérature, c'est un auteur qui l'a fait, c'est aussi Bob Dylan, ne serait-ce que toutes les références. Il y a un très bon livre sur les amateurs de Bob Dylan, les fanatiques, qui s'appelle The Dylanologist. Et il y en a un qui s'est donné comme mission de repérer toutes les références littéraires chez Bob Dylan. Mm-hmm. Il a un blog et c'est un puits sans fond de clins d'œil, de reprises. Et pas seulement de la musique folk, mais même parfois, on s'étonne à retrouver des chansons contemporaines. Une des références les plus curieuses de Bob Dylan, quand on tient compte de son corpus habituel, c'est Alicia Keys en Thunder on the Mountain. Soudainement, il est question d'elle. Mais c'est parce que c'est un peu dans son travail de plonger dans tout ce qui est dans le grand champ de la culture. Pop, de la culture, sans tenir compte du high and low culture. Dylan, je pense pas que lui-même n'a pas vraiment fait la différence entre l'un et l'autre. Et c'est ça qui en fait un auteur à l'œuvre immensément riche, qui, selon moi, mérite récompense. Et il en a déjà eu plusieurs avant.
Oui, dans le Pulitzer, oui, rien de moins. Oui, c'est ça, il y a quand même une démonstration d'une culture littéraire dans le corpus même qui peut prouver, selon une espèce de critère, qu'il est méritant, qu'il mérite, en fait, ça. Mais il y a tout le temps ceux qui disent qu'ils ne méritent pas.
Ouais, ça.
Mais en même temps, moi, des fois, je lisais les articles qui sortaient chaque heure, presque.
Ah ouais.
Puis les gens étaient tellement inquiets de la démocratisation de la littérature. C'est fou, là.
C'est inquiétant, oui.
C'est vraiment inquiétant. T'as envie juste de leur dire « check your privilege », genre. T'es qui? À quel point tu fais partie de l'élite pour avoir peur que d'autres personnes... Tu sais, à la fois, tu vas dire « ah, les gens ne lisent pas assez », mais tu veux pas que la littérature les atteigne. Il faut absolument qu'on soit... Que la littérature reste en haut de la pyramide sociale, en haut de la hiérarchie, en haut des arts.
D'ailleurs, dans le Figaro, un commentateur disait « Comment voulez-vous que les profs, maintenant, donnent l'envie de lire à leurs élèves si un chanteur peut remporter le Nobel?
» Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça tellement...
Ben oui.
Ça me tente plus de lire des livres, mais me semble.
La chanson, il y a toujours un petit rapport trop pour la reconnaissance officielle. Oui. Parce que, sauf s'il faisait justement beaucoup d'emprunts. Parce que Brassens s'était fait offrir d'être à l'Académie française et il a toujours refusé. Charles Trenel, c'est l'inverse. Il a toujours voulu y être et on l'a refusé jusqu'en 1983. Il fallait qu'il prouve qu'il était littéraire. T'sais, on n'aimait pas son... Ben, c'est pas qu'on aimait pas traîner, mais on le reconnaissait pas pour être à l'Académie française. Ça a changé maintenant. Il y a quand même des auteurs contemporains qui ont fait leur place, mais il y a toujours un rapport trouble entre les institutions littéraires et la chanson, qui est vue comme un art populaire.
Tout à fait, oui. Peut-être qu'on a parlé déjà de ça, aussi de rapport qu'on peut faire entre la chanson et la poésie, mais à quelque part, tu sais, c'est... Il y a d'autres auteurs, compositeurs, interprètes. Là, je pense manifestement à Leonard Cohen, qui fait preuve d'une démonstration, justement, d'une démonstration d'une culture littéraire, puis que tout le monde s'entend pour dire que c'est un parolier énorme, là, qui est vraiment super important, puis qui est excellent. D'ailleurs, j'ai le temps de vous poser la question, vous, si vous aviez à donner un prix Nobel de littérature pour l'œuvre de n'importe qui.
De n'importe qui.
Faut qu'il soit en vie, donc...
Moi, ça serait Jarvis Cocker, c'est sûr, le parolier.
Ah oui, OK.
Le gars de Pulp, c'est sûr.
C'est une question, mon Dieu. Je pense à des gens morts, c'est ça le problème. Là. Je pense à quelqu'un qui vive.
Ah, alors, ne nous baderons pas avec la mortalité terrestre.
Hubert Aquin aurait dû l'avoir, okay. Même s'il n'était pas reconnu mondialement. Mm-hmm. Mais son œuvre, je trouve qu'il y avait le profil. Je lisais un peu certains auteurs, des biographies ou des références littéraires sur certains auteurs qui l'ont eu. Puis je trouve que Hubert Aquin aurait eu l'espèce de corpus qui aurait convenu tellement à... au Nobel, enfin.
Effectivement, en plus, il a quand même travaillé les formes, l'idée du baroque, la note en bas de page, puis plein de...
Éclaté les formes, mais c'est ça, je parle tout... il est trop tard.
Mais en même temps, je pense que la différence, c'est que la littérature québécoise ne s'inscrit pas dans la littérature universelle parce que personne d'autre la lit. Genre, c'est pas que nos auteurs ne s'inscriraient pas, ils ne pourraient pas s'inscrire, mais il y a...
Mais c'est ça, que, oui, c'est ça. Moi, je connais pas assez l'histoire.
Peut-être moi qui ai une idée.
Je pense à Régent du Charme, qui est quand même publié chez Gallimard.
Oui, mais les Français, c'est dur. Là. Moi, quand j'étais en France, j'aurais jamais réussi à le trouver en librairie.
Ah ouais.
C'est la même chose avec Anne Hébert, qui est publiée en France, mais est introuvable. Personne la lit.
Mais je trouve ça vraiment.
Anne Hébert, elle peut sans gagner le prix Nobel.
Oui, je suis d'accord. Oui.
Le premier nom qui me vient en tête, et je pense que ça ferait vraiment de la controverse, surtout si on tient compte de celle de Dylan, Art Spiegelman pour Mouse.
Oui, oui.
Je pense que ça mériterait un prix Nobel. Je pense que c'est une œuvre capitale dans la littérature du 20e siècle.
Mm-hmm, tout à fait, oui.
Mais là, ce sera un auteur de bande dessinée. Mon Dieu, où est le littéraire? Mais je me suis posé la question, qu'est-ce que ça aurait été? Comment les gens auraient réagi justement si Spiegelman avait gagné? C'est un scénariste avait gagné.
Oui.
Parce que les scénarios, c'est très rare qu'ils sont publiés. Alors là, on n'a même pas d'œuvre papier auquel on peut se référer. Si Paul Schrader, l'auteur du scénario de Taxi Driver, s'il avait gagné le Nobel, pourquoi pas? Mais là, je pense qu'on aurait une vraie controverse.
Je crois que peut-être qu'un jour, on ne sait pas c'est quoi les prix qui s'en viennent, mais effectivement, s'ils sont partis, s'ils veulent vraiment faire un discours sur la littérature, il va falloir qu'ils s'en arrêtent pas à la chanson et qu'ils posent des questions ailleurs.
Une des questions qui se pose aussi, c'est au lendemain, dans les lendemains de cette victoire, de cette glorieuse.
C'est tous ceux qui ont peur que Taylor Swift éventuellement gagne le Nobel. Ça, c'est hilarant.
Moi, j'ai lu Justin Timberlake. Les gens disaient, c'est comme le sophisme de la pente ascendante.
Oui, oui,
si lui l'emporte, et là, en trois noms, on était déjà rendu à Justin Timberlake. Voyons donc. Ouais.
Pour revenir à la discussion des prix Nobel par rapport aux cultures nationales, si justement une institution qui me semble faire fi... Bien, qui est très ouverte, en fait, aux cultures nationales, c'est bien, justement, les prix Nobel qui ont, justement, en 1913, donné un prix Nobel à un Indien, ce musicien dont on a parlé un peu plus tôt, musicien, mais en fait, qui écrit beaucoup d'autres choses. Et je me demande pourquoi pas un auteur québécois, je veux dire...
Mais en même temps, oui, ils sont ouverts, mais ils ne sont pas si ouverts que ça. Là, si tu regardes la proportion pays européens versus pays du reste du monde, la majorité...
européen-centriste.
Puis la Suède est surreprésentée. Là.
Oui. Je n'étais pas au courant de ça. C'est déjà très intéressant.
Quelqu'un soulevait qu'il y avait très peu d'Africains même qui avaient eu le prix.
Il y en a quatre.
Ça se compte sur une main, oui.
Puis la première Canadienne, on a une seule Canadienne.
Alice Munro?
Ouais. Mais d'ailleurs, c'est une Suédoise. La première femme à gagner le prix Nobel, c'est une Suédoise.
On a déjà parlé de la Suède dans le reste.
Coïncidence!
Mais c'est quand même tôt qu'il donne le premier prix Nobel à une femme, je pense, en 1909.
Oh!
1913. Ah, non, pas 1913, 1909, je pense.
Est-ce que c'était de l'écriture de l'intime? Parce que les femmes, tout le temps, l'écriture de l'intime. Oh. Ouais, je fais des blagues, c'est pas une
L'Amérique du Sud avait été, je pense, aussi qui est mal représentée. On a pleuré le fait que Borges n'a jamais obtenu le Nobel et à quel point c'était impensable de se dire que l'auteur de la Bibliothèque de Babel n'a pas été récompensé, mais l'auteur de Like a Rolling Stone, qui est un adepte de Borges en passant, il le cite dans quelques chansons, le soir.
Puis Sartre, il avait parlé de Neruda aussi, que quand lui a refusé son prix...
Sartre a refusé son prix, parce que Nobel, c'est un fabricant de dynamite.
Cité, il a dit Neruda pourrait l'avoir, parce que lui aussi, il voyait une opposition entre les deux mondes, Est et Ouest, à l'époque, la guerre froide était assez intense. Et lui, il trouvait que c'était une façon un peu de prendre position que d'accepter le prix. Il dit, pourquoi pas un auteur sud-américain qui serait un peu en dehors de ça? Mm-hmm. Et puis, il avait cité Neruda. Mais le nom est ressorti de Neruda souvent jusqu'en années 70, là, quand il est mort.
D'ailleurs, Sartre disait que la poésie, c'est pas de la littérature aussi. Oh. Ses plus grandes écritures sur la littérature, c'est que la littérature, ça doit parler d'actualité, puis ça doit pas... On devrait pas lire... Il a raté sa shot. Mais qu'on devrait pas lire des auteurs du passé, qu'on devrait lire des auteurs du présent, que ça soit politique.
Moi, j'ai lu aussi dans les recherches qu'on a faites pour l'émission que, finalement, c'est le premier prix Nobel de littérature depuis 1996, depuis Toni Morrison. Mm-hmm. Donc, depuis ce temps-là, je pense que l'Europe a gagné beaucoup. Ça m'avait surpris que ça soit... que ça faisait aussi longtemps que ça, finalement, que les États-Unis n'avaient pas été représentés pour les prix Nobel.
En même temps, avec ce que je disais tout à l'heure sur la déclaration...
Oui. De l'ancien secrétaire.
Oui. Mm-hmm. Et c'était la littérature américaine serait trop populaire, serait trop vulgaire. Donc, ils ont décidé vraiment de changer d'horizon, là.
Oui. Ce serait très intéressant durant les prochaines années de voir où ils s'en vont avec ça.
Pensez-vous que c'est un peu dans une optique de ramasser les pots cassés, de dire on s'excuse d'avoir été aussi hermétique, non, nous sommes ouverts d'esprit?
Oui, c'est ça. Il y avait une espèce de rattrapage de snobisme là, qui a été noté par certains. Moi, je connais pas assez les tenants et aboutissants du comité de Nobel puis l'histoire des prix Nobel pour...
Mais je pense que le comité a changé. En changeant de personne, les sensibilités ont changé, leur intérêt, leur vision. Là, j'imagine que...
Que oui, que ça doit être... ça doit se...
C'est pas nécessairement par rapport à ce qui avait été dit, mais juste ces personnes-là sont différentes, ils pensent pas nécessairement la même chose, la grande littérature, si on veut. Mm-hmm.
Mais peut-être la question qu'on peut se poser, ce serait quoi en 2016 la grande littérature? Mm. Moi, je pense personnellement que Bob Dylan en fait partie. C'est mon opinion personnelle. Mais bon, c'est qui les William Faulkner et les Virginia Woolf de 2016?
Ouais. Mais après, c'est quoi la petite littérature? C'est quoi... qu'est-ce qui devrait nous apporter? Qu'est-ce qu'on devrait...
Ben, ce qui est compliqué, c'est... Moi, par exemple, je suis très, très structuraliste. J'ai l'impression que tout est littéraire. Selon moi, il y a autant de littérature dans le texte sur une boîte de céréales que dans un poème de Baudelaire. Il n'y a aucune différence. C'est de la littérature. Et rendu là, si on pense d'un point de vue de valeur littéraire, je pense pas que l'auteur des boîtes de cornflakes va jamais remporter le Nobel. Ah, on lui souhaite.
Il y a une ouverture.
Ce serait scandaleux. Mais...
A-t-il besoin d'un million?
Oui.
La médaille ou ça en or qui vient avec.
Ah bon, c'est vrai.
Oui. Mais pour... c'est quoi la petite littérature? Toutes les littératures qui mettent en scène le corps, pas qui se mettent en scène, mais aussi qui sont très... physicalistes dans leur manière d'aborder l'écriture, dans la manière de lire aussi. Donc, des autobiographies de drogués, par exemple, ou de prostituées, là, qui vont... Ce qui peut être semblable... Finalement, des genres littéraires qui peuvent être semblables aux réactions qu'on a quand on regarde la pornographie. Donc, qui sont une lecture empathique, on a comme qu'on a des réactions physiques en lisant, par exemple, sur la douleur de bonhomme. Je pense à James Frey, je pense, qui avait écrit 10,000 Little Pieces. En tout cas, il y avait une scène, je ne me rappelle plus du nom du livre, mais il y avait une scène d'arrachage de dents, mais à froid, parce que le gars, c'est un ancien junkie, fait qu'il ne peut pas être, il peut pas avoir de drogue, là, tout simplement, dans son système. Puis c'est terrible à lire. Quiconque a un peu d'empathie, là, tu te sens comme complètement opprimé et douloureux, même s'il ne se passe rien dans ton corps. Donc, j'ai l'impression... Puis ça, c'était en fait un livre qui a été primé par le Book Club de Oprah à une certaine époque. Et ça aussi, on peut en parler, justement, littérature appréciée par des femmes à la maison qui peuvent se permettre d'écouter Oprah. Je pense... peut-être, Stéphanie, tu peux nous éclairer là-dessus, mais j'ai pas l'impression que c'est une littérature qui est considérée comme de la grande littérature. Et Et il a été dénoncé. En fait, il y a un site web qui a fait une enquête sur ce gars-là, puis il s'est rendu compte que ce qu'il écrit comme autobiographie, ça a été inventé. Il n'a pas été dans un centre de désintoxication. Il n'a pas été drogué. Donc, c'était une écriture. En fait, c'est un roman qui était écrit au jeu. Puis son éditeur lui a dit, « Ah, écris autobiographie, ah, ça, oui. Ça va vraiment plus pogner. » En fait, c'est ça que j'ai compris vraiment de la controverse, parce qu'il y a eu une grosse controverse, parce que là, qu'est-ce que la vie de quelqu'un... qu'est-ce qu'une autobiographie? Qu'est-ce qu'une biographie? Qu'est-ce qu'un roman? Qu'est-ce que l'autofiction? Il y avait plein de petits fils là, à travers cette controverse-là. Mais j'ai pas l'impression que c'est un livre qui... Ça a été un best-seller, mais j'ai pas l'impression que ça va être un livre qui va passer l'épreuve des années, disons. Et, mettons, moi, j'ai lu plusieurs années, mais je l'ai lu plusieurs fois, l'autobiographie des gars de Motley Crue. Et ça, il est question énormément de corps, de sexualité, de drogue, justement. Et ça, c'est... Même si moi, je l'aime beaucoup, c'est pas quelque chose... À moins que je devienne la secrétaire du comité Nobel.
Tommy Lee, peut-être en 2017.
Tommy Lee, en 2017, ben, prix voilà. Nobel. C'est ça. Mais c'est pas de la grande littérature, donc... Et tout le filon des autobiographies de célébrités, tout ça, là, j'ai l'impression que... Si on parle de petite littérature, moi, je dirais que ça serait ça.
C'est quand même très péjoratif.
Ben oui, absolument. Oui.
C'est immensément très... péjoratif. Oui, oui. Parce qu'on pourrait appliquer ça à la bande dessinée, on pourrait appliquer ça.
Oui, c'est terrible
blog.
Ce que je dis. De toute façon, je ne le pense pas, là, mais c'est juste que socialement, je pense à ça. Là. Moi, je m'en fous. Là.
Moi, j'aime beaucoup les romans d'espionnage, mais je ne le dis pas tant que ça. Là, je le dis à la radio. Là. Mais, mais j'en parle pas beaucoup, mais j'aime ça. Et je sais que ce n'est pas considéré comme de la grande littérature. Mais tu sais, je pourrais dire, ah, c'est très divertissant, mais j'ai quelque chose de plus qui m'attire vers ça qui est plus profond. Le rapport politique, les vrais événements historiques, souvent en parallèle avec le récit. Mais j'en parle rarement. Je le dis pas tant que ça. Je parle plus du Barraquin que de ouais. romans d'espionnage.
J'ai l'impression que la littérature...
Il écrit des romans d'espionnage?
Oui, oui, il y en a écrit, oui, tout à fait.
J'ai l'impression que la littérature de genre, par exemple, comme ça, de la science-fiction, ouais. l'espionnage, c'est quelque chose qui est en train de prendre des lettres de noblesse de plus en plus depuis une couple d'années. Parce que, justement, il y a une espèce de renversement, puis on se rend compte que qu'est-ce qui est populaire ou qu'est-ce qui était populaire, il y a beaucoup de valeurs là-dedans. Mmh. Et je pense que le prix de Bob Dylan s'inscrit dans cette vague-là. Mais il y a plein d'autres prix, justement, qui essayent aussi de voir qu'est-ce qui pogne chez les jeunes.
Oh! Mais tu parles de la littérature de femmes au foyer, ça m'a tout de suite fait penser à Fifty Shades of Grey.
Oui,
donc,
oui.
On sait que le lectorat était majoritairement féminin, et là, on peut se poser la question...
Ouais, le lectorat, en général, est majoritairement féminin, non?
D'accord. Eh bien, donc...
Ben, qui lisent la fiction, parce que pour l'essai, je pense que c'est majoritairement un lectorat masculin.
Ben, je disais le lectorat de Fifty Shades of Grey est majoritairement féminin, parce que c'est ça qui a été dit aussi dans toute la critique autour de ce livre-là. Ben, qu'est-ce qui va déterminer si un jour Fifty Shades of Grey pourrait faire partie de la grande littérature? Ben, c'est le temps. C'est à savoir, oui. est-ce qu'on va encore lire ce livre-là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans? Moi, je pense que non. Je serais porté à croire que non. Je pense que c'est un succès qui va être très éphémère dans les décennies à venir.
Mais comme j'ai parlé d'Harry Potter, comme elle pourrait potentiellement gagner le prix Nobel pour son influence dans la littérature jeunesse et donner le goût de lire aux enfants, mais son livre est encore lu, puis on peut pressentir qu'il va être encore lu dans 50 ans, dans 100 ans.
Puis probablement que ce qui pourrait te donner raison, c'est Kipling qui a gagné le prix Nobel de littérature, qui est principalement connu pour Le Livre de la Jungle, qui est un classique de la littérature jeunesse. Bon, on pourrait dire que ça reste un roman qui peut être lu à différents niveaux, peut-être plus qu'Harry Potter, mais encore là, on n'est pas genre les jeunes lecteurs qui auront grandi avec Harry Potter pour se rendre compte à l'âge de 40 ans, mais mon Dieu, j'ai trouvé un sous-texte, voici la preuve que le troisième volume d'Harry Potter est en fait une métaphore de je sais pas trop quoi.
Qu'est-ce qui survit? C'est super contingent. Il y a un auteur qui a parlé de ça qui s'appelle Raymond Williams, qui a été très important pour les cultural studies, qui a parlé de ça en termes de la tradition sélective. Donc, quelque chose qui est très important à un certain point peut complètement sombrer dans l'oubli, peut rester important, peut redevenir important à l'aune des nouvelles circonstances. Par exemple, si, mettons, la guerre froide avait duré plus longtemps, si on était encore un bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, je suis sûr qu'il y aurait des œuvres dont on parlerait aujourd'hui, dont on ne parle plus pantoute parce que c'est nul et non avenu maintenant. Là.
Mais en même temps, c'est vrai que je repense à ce que tu disais sur le corps. Peut-être que si on considère moins les œuvres qui nous rappellent notre corps, c'est parce qu'on est censé l'oublier en lisant. Oui, l'attention soutenue, c'est une attention qui oublie, bien, même si tout ton corps travaille, mais qui oublie son environnement, qui oublie vraiment son corps pour se concentrer. Tu sais, moi, c'est ça que je m'intéresse à la maîtrise, comment dans les bars, les gens, en parlant, en buvant, en se promenant dans les micros ouverts de poésie, peuvent aussi avoir une expérience complète du texte qui prend le corps comme un élément central de la constitution du sens ou de la constitution de son rapport au texte.
C'est ça, mais en étudiant ça, tu te mets en faux par rapport à la tradition avec un grand T littéraire qui, c'est ça, tu dois oublier ton corps, la littérature doit sublimer ce qui se passe dans ton bedon, blablabla. Donc,
ça doit être à un niveau intellectuel qui est de l'intellectualisme pur.
Alors que ça se produit pas quand on lit. Peu importe comment on lit, on s'oublie jamais soi-même.
On lit en buvant un café, on lit en entendant des voitures se promener.
En essayant de tasser le chat qui veut tout le temps aller sur...
En fait, c'est intéressant qu'on évoque ça.
C'est comme si c'était une maîtrise de soi, comme on s'auto-flagelle en essayant de se dire « Ah, je suis pas assez concentré, mon Dieu, faudrait que je me concentre plus. Je comprends pas assez bien le texte, je remplis pas les critères. »
Et ce qui est intéressant, c'est que on a beaucoup parlé d'écriture, mais là, on parle de on dirait le versant oublié de la littérature, qui est la lecture. Mm-hmm. Comme si on oubliait que t'es... L'œuvre de Dylan, si on l'écoute, à quelque part, on la lit en même temps. Donc, on pourrait dire que est littéraire ce qui se lit. Mm-hmm. Et la lecture étant très, 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 très large. Peut-être encore plus que l'écriture.
Mm-hmm. Mm-hmm. C'est une bonne question, ça.
C'est vraiment le... Dans mes recherches, tu sais, on a toujours une bonne façon de recevoir un texte. Puis là, c'est ça qui... C'est pas laquelle... Moi, quand la polémique est arrivée, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu de Bob Dylan dans vie. Je m'en fous un peu de ses textes. Je n'ai pas envie d'aller lire ses chansons pour me demander « Ah, c'est-tu de la littérature ou c'est pas de la littérature? » Mais qu'est-ce qui m'a frappé, c'est que en tant que lecteur, si on écoute Bob Dylan, on n'adopte pas la bonne façon de recevoir un texte. Donc, ça ne peut pas être de la littérature parce que tu ne peux pas la consommer de la bonne façon. Il y a vraiment ce rapport-là que toutes les théories justement structuralistes ont quand même l'idée de vouloir de produire un sens qui serait pas absolu, mais de vouloir faire de la production... Que ça soit productif, que ça soit pas émotif. On essaie tout le temps d'enlever les émotions, d'enlever le corps, d'enlever tout ce rapport-là au texte, comme si ça pouvait pas en faire partie, comme si la lecture avait une seule façon d'être faite, d'être optimum.
Oui, c'est vrai. Puis comme, mettons, une lecture qui est très... au-delà du corps, très émotive, là, c'est quelque chose que... Mettons, Twilight aussi... c'est pas considéré comme la grande... À tout le moins, de manière très ponctuelle, c'est pas considéré comme la grande littérature. Peut-être qu'éventuellement, c'est ça, avec plein de mécanismes sociaux, ça peut
devenir... Je rappelle que Balzac, de son vivant, s'était considéré comme de la littérature de masse. Il recevait de très mauvaises critiques. Je me souviens même lire un gros dossier sur la réception critique de Balzac, de son vivant. Il y en avait un, ça, c'est très drôle. Il méprisait le fait que Balzac ramenait des personnages d'un roman à un autre.
Quelle horreur!
Et alors aujourd'hui, c'est ça qu'on trouve génial dans son œuvre.
Oui. L'intertextualité, non, c'est ça. Mais je me souviens, j'étais pas là au 19e siècle, mais...
Eugène Sue,
Eugène Sue, Les Mystères de Paris, c'était un grand succès. Et
c'est souvent... le hit!
C'est l'exemple qu'on donne, comme quoi ça n'a pas tant passé à postérité, parce que c'était populaire, c'était un feuilleton, il y avait une partie chaque semaine dans le journal. Mais contrairement à Balzac, ça n'a pas marqué le temps. Moi, j'ai connu ça, c'est Jack Kerouac qui en parle dans un roman. Puis c'est la première fois que j'entendais parler d'Eugène Sue. Après ça, en cherchant un peu, j'ai vu que lui, il avait eu du succès de son vivant, mais après ça...
Oui, ça, c'est un exemple. En fait, oui, il est devenu comme l'exemple... canon de quelque chose qui pogne à une certaine époque puis qui ne survit pas, justement qu'il n'y a pas de tradition sélective là, qui le suit. Ouais, ouais.
Et là, on joue un peu le jeu grande littérature, petite littérature, mais il y a quand même des auteurs qui se situent dans des zones très grises. Je pense, par exemple, à Stephen King.
Oui.
Est-ce que Stephen King pourrait remporter le Nobel? Est-ce qu'il pourrait ou du moins être dans la liste des pressentis?
J'ai l'impression que
c'est un auteur qu'on va lire longtemps après.
C'est quelque chose qui m'a surpris quand j'ai commencé à fréquenter plus les cercles littéraires, c'est à quel point Stephen King comme Samuel Archibald, tu sais, il y a vraiment des grosses têtes littéraires en ce moment au Québec qui triment dessus. Puis moi, ça m'a tout le temps semblé de la littérature de pharmacie de Jean Coutu. Puis j'ai comme vraiment fait, ben, ah oui, ah, OK.
Je pense que l'affection qu'ont ces gens-là pour Stephen King, c'est que c'est l'auteur qui les a menés à lire. Il faut bien commencer à quelque part. Et moi, j'ai pas commencé à lire avec James Joyce. J'ai commencé à lire...
Ni avec le Babysitter's Club?
Non, ça, c'est plus ma sœur.
C'est très fille, ça, ouais.
Mais je lisais les premiers romans de La Courte Échelle. Mais quand je me suis vraiment intéressé à un romancier, donc je voulais lire plus qu'une histoire, Stephen King a été le premier auteur que j'ai reconnu comme tel. Et je considère que c'est important dans le parcours d'un lecteur, ça, et je ne suis pas le seul. Donc, si on voulait récompenser un auteur qui a mené plusieurs personnes à lire, ben dans ce cas-là, Stephen King ferait sens.
On va terminer là-dessus. Donc, je vous rappelle, auditeurs, que vous pouvez toujours nous ajouter sur votre application d'écoute de podcast et de nous donner une bonne note, parce que c'est comme ça qu'on est comme partagé puis que le monde sait qu'on est bon. Puis tout ça, c'est vraiment hot pour Pop en Stock. Et aussi, vous pouvez aller donner à notre Patreon pour qu'on paye un artiste à chaque mois pour nous faire soit une bannière, une banderole, un casse-tête, un macaron, un aimant pour votre frigo, etc. Donc, vous pouvez aller consulter notre page Facebook et aller suivre le lien pour notre Patreon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je m'appelle Hélène Lorrain.